RCF. Notre invité aujourd'hui a un parcours qui l'emmène petit à petit au plus près des invisibles. En Ardèche, elle préfère être dans le mouvement plutôt que dans la contemplation. Et cela en toute discrétion. Isabelle Bell, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venue à ce micro pour pouvoir nous parler de vous, de votre parcours. Un parcours de foi un peu atypique, vous me l'avez dit même un peu rock'n'roll, vous m'avez dit hors antenne, qui commence début des années 80, à quel endroit ?
Oui, alors je suis née dans les années 80 à Cherbourg. En Basse-Normandie, voilà, je suis issue d'une fratrie de deux dans un premier temps, une sœur aînée et puis moi. Mon papa, pour des raisons professionnelles, nous a un petit peu emmenés à droite à gauche en France. Donc on a très régulièrement déménagé. Donc voilà, mon lieu de naissance c'est Cherbourg, mais c'est pas, voilà, ce n'est pas forcément mon pays d'origine.
Alors, les circonstances, vous m'avez dit, j'avais une mère catholique et un père protestant.
Alors, l'inverse, oui, voilà. Donc, moi, je suis issue d'une famille œcuménique. Ma maman est protestante, d'origine lausérienne, voilà. Et mon papa est catholique. Tous les deux sont relativement non pratiquants, mais très respectueux, voilà, de leur foi chacun. Mes parents ont très rapidement décidé de nous baptiser. J'étais baptisée en même temps que ma sœur aînée, en Provence, dans un petit village de Provence, baptisée catholique, au choix de mes grands-parents paternels qui, eux, étaient voilà, profondément pratiquants.
Donc, voilà. Vous et votre grande sœur,
voilà,
toutes les deux
sœur aînée,
baptisées le même jour.
Le même jour, tout à fait.
Enfance plutôt heureuse ?
Enfance heureuse, voilà, marquée par des déménagements, des expériences, des rencontres, beaucoup beaucoup de rencontres, des adaptations aussi, des parents aimants, une vie de vacances, de famille, une jolie enfance.
Jolie enfance, oui. Tranquillement, des déménagements qui vous ont conduit dans quel coin de France ?
Alors, donc la Normandie tout d'abord, ma sœur était née 2 ans auparavant dans le sud. Puis donc après, donc la Normandie pour moi, le bassin parisien pendant quelques années, de nouveau la Normandie, mais côté un peu plus au nord, Haute-Normandie, puis Rhône-Alpes.
Comment vous vous trouvez dans l'Ardèche ?
Alors, je me suis retrouvée dans l'Ardèche puisque j'ai connu mon mari pendant mes études et que mon mari est un Ardéchois. Ouais. Donc, Ardéchois une fois, Ardéchois toujours.
Ardéchois toujours.
Voilà.
Votre mari s'appelle comment ?
Antoine.
Voilà, à qui on passe le bonjour. Beaucoup de déménagements, une enfance plutôt heureuse et école catholique.
École catholique, oui. Mes parents ont toujours aimé les petites écoles et effectivement, comme on vivait dans des villes de taille assez importante, c'était plus confortable pour eux de nous savoir un peu dans un cocon. Et puis après, collège un petit peu des deux. Et puis, voilà, après une école supérieure bon, d'État.
D'État, et donc qui va vous conduire à un métier dont on parlera dans quelques instants.
Voilà.
Jusqu'au jour où les parents se séparent.
Mes parents se sont séparés l'année de mon bac, oui, effectivement.
Donc là, vous avez 17, 18, c'est ça ?
18 ans, oui, 18 voilà, ans. 18 ans.
Donc les parents se séparent, vous êtes quand même déjà quasiment une adulte.
Oui.
Mais effectivement, ça change un peu le quotidien.
Ça change un petit peu le quotidien, effectivement. Je me dirige dans un premier temps vers un premier choix d'études qui sera pas, qui ne marchera pas. Puisqu'effectivement, quand la cellule familiale explose, c'est toujours un petit peu compliqué, même si mes parents étaient tout à fait présents, aimants, pas de souci. Mais voilà, c'est une période où on se cherche un petit peu. Puis le début de la vie d'adulte, c'est toujours un peu ça. Des jobs d'été m'ont permis de trouver ma voie professionnelle, en fait. Voilà, et puis après, effectivement...
C'est-à-dire, comment ça ?
Alors, en fait, je cherchais des petits boulots. Et puis, bon, quand on n'est pas beaucoup qualifié, c'est pas évident. Donc, on a le choix entre le restaurant, ce que je faisais aussi, ramasser des fruits, mais aussi s'occuper de personnes âgées. Donc, alors, au début, ça me faisait un petit peu peur. Et puis, très rapidement, en fait, ça m'a beaucoup plu. Je me suis un peu lancée dedans et puis donc j'ai décidé de... Donc, j'étais partie dans la comptabilité au début et puis après, voilà, j'avais après de plusieurs expériences avec les personnes âgées, j'ai décidé de passer mes concours pour rentrer à l'école d'infirmière.
Là, vous vous rendez compte que finalement le social, le lien avec les personnes âgées,
ça.
Les aînés, c'est votre truc.
C'est vraiment ça, ouais. C'est vraiment ça.
Encore aujourd'hui ?
Ah oui, toujours, oui. toujours.
Vous occupez de personnes âgées, notamment, pas que peut-être ?
Oui, alors moi je travaille à domicile, donc j'ai beaucoup beaucoup de personnes âgées, mais j'ai aussi des personnes plus jeunes, ouais, moins âgées on dirait. Mais voilà, c'est tout autant un plaisir de pousser les portes chaque matin.
Vous m'avez dit à la période où les parents se séparent, quand je revenais de mon école, j'avais pas un vrai point de chute comme avant, c'est-à-dire il y a plus la maison de famille,
oui.
Et du coup je me réfugie entre guillemets un petit peu dans la paroisse.
Oui, parce qu'en fait voilà, j'ai fait mes études à l'hôpital de Vienne et en fait mon appartement était tout proche de l'église. Et c'est vrai que je prenais un malin plaisir à y aller. Bon, j'avais vécu mes sacrements voilà comme tout enfant scolarisé à ce moment-là en école catholique, hein. Mais c'est vrai que voilà, je pratiquais un petit peu moins, mais j'avais toujours autant de plaisir à y aller le dimanche quand je travaillais pas, et puis des moments aussi pour vider un peu le sac, parce qu'effectivement bah le métier est pas facile, les études le sont pas non plus, ça nous met au parfum des premiers jours. Et c'est vrai que quand je poussais cette petite porte latérale là de la cathédrale, j'avais l'impression de respirer à nouveau.
À quel endroit la cathédrale, pardon ?
À Saint-Maurice, la cathédrale Saint-Maurice de Vienne, de la ville de Vienne, en Isère.
Donc voilà, on passe le bonjour à ceux qui nous entendent là-bas, donc vous passiez par le côté.
Oui, à côté du parking, je me garais juste à côté. Mon appartement était de l'autre côté de la rue, effectivement, voilà, j'avais le choix et souvent voilà, j'allais m'apaiser avant de rentrer.
Ça vous arrive d'y retourner ?
Oui. On y est allé pour des sacrements d'ailleurs d'enfants d'amis, donc c'était très touchant, très émouvant.
Qu'est-ce que vous voulez dire par sacrement dans son ami ?
Voilà, on a la fille d'une de nos amis qui a fait sa communion très récemment et dans cette cathédrale puisque sont viennois et ça m'a beaucoup ému d'y retourner. Enfin, j'étais très très ému de retourner à la cathédrale. Et puis bon, voilà, quand on peut y passer, on y passe. Puis j'ai eu la chance du coup d'y emmener mes enfants, donc. C'était chouette.
On peut dire que c'est un petit peu là que la foi est née ou pas pour vous ?
Alors non, la foi était là bien avant, mais je dirais que quand on est tout jeune, on est croyant. Enfin, en fait, je m'étais pas trop posé la question de Dieu. Je savais qu'il m'accompagnait, enfin, c'est ce qu'on me disait, donc je le croyais et j'en avais cette sensation. Mais il y a des moments où vraiment vous le sentez proche de vous. Et peut-être avec une foi beaucoup plus mûre, à Saint-Maurice, je le sentais vraiment proche de moi, ouais.
Alors, on va passer dans la seconde partie, on va approfondir un peu cette question de la foi. Juste avant, vous avez décidé de nous proposer un chant qui s'appelle « Ensemble ».
Oui, chant scout, éclaireur il me semble, belge.
Pourquoi scout ?
Parce que j'ai eu la chance de me voir confier la mission de responsable de groupe scout il y a quelques années, donc en Ardèche.
C'est-à-dire que vous avez été scout ?
Alors non, pas du tout. Mes grands-parents paternels étaient scouts tous les deux. Mais moi, je n'ai pas été scout. Mais on m'a confié une première mission d'accompagnatrice compagnon il y a quelques années, accompagner des jeunes. Puis après, on m'a demandé de pouvoir aider un petit peu en étant responsable de groupe scout. Et je pense que j'ai vu une véritable fraternité, tous ces jeunes d'une motivation. Moi, j'étais complètement bluffée, en fait, de découvrir ça. Et j'ai trouvé que c'était très chouette. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce chant.
Donc, vous avez pu être responsable de scout sans avoir été scout vous-même.
Tout à fait.
On écoute ce chant ensemble et on se retrouve juste après.
Je m'en souviens, j'avais 6 ans, je comprenais pas ce que voulaient mes parents. Quand ils m'ont dit, mon enfant, va chez les scouts, c'est important. Moi je flippais grave au début, je sortais chez moi de mes habitudes. Mais la ripambe, elle m'ouvre la porte, et au final le rire m'emporte. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Puis je me rappelle de mes 8 ans, chez les louveteaux tout était différent. Je découvrais la vie au grand air, les jeux dans le bois, la vie sans manière. On court partout, on fait les fous, on rit, on chante comme des loups. Avec la meute je deviens plus grand, la force du loup c'est le clan. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on
on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Arrivé chez les éclaireurs, plus personne ne me faisait peur. Quand je suis en bande avec mes potes, je me sens plus fort même pour la tote. On vit ensemble et en patrouille, on devient les rois de la débrouille. On construit même nos pilotis, à bout de bras et d'énergie. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu.
Chemin de foi, RCF.
Toujours en compagnie d'Isabelle Bell, notre invitée aujourd'hui dans notre émission sur RCF, avec un parcours qui l'a fait déménager un peu partout dans la France, atterrir en Auvergne-Rhône-Alpes et puis plus précisément en Ardèche quand elle a rencontré son mari qui est ardéchois d'origine. Isabelle qui a fait des études d'infirmière, qui a découvert lors de jobs d'été en fait qu'elle aimait s'occuper des autres, avoir des relations sociales et notamment avec les personnes âgées. Dans cette seconde partie, on va approfondir un peu la foi qui était déjà là un petit peu dans l'enfance, mais qui s'est renforcée, elle nous l'a dit, dans la cathédrale de Vienne. Une foi qui est née de plusieurs rencontres. Vous avez utilisé ce mot plusieurs fois dans la première partie. Les rencontres, pour vous, ça a été quelque chose de très fort.
Oui, tout à fait. J'ai eu la chance de soigner des gens qui étaient profondément empreints de cette religion, avec qui j'ai pu parler de Dieu, ce qui fait toujours beaucoup de bien, surtout quand on accompagne le départ, quoi. C'est oui. Un petit peu voilà.
Oui, parce qu'on peut aussi parler un petit peu de ça.
Effectivement, voilà, j'ai eu des expériences aussi en service de soins palliatifs, et c'est vrai que ce sont vraiment des services pleins de spiritualité. Donc ces rencontres, hein, les rencontres de certains patients qui avaient cette foi, quand je suis arrivée en Ardèche. Que nous avons quitté la région viennoise avec mon mari. J'avais vraiment besoin, voilà, de me mettre un peu au service. Donc j'ai contacté Pierre, qui était notre curé de paroisse à ce moment-là, et qui m'a orientée vers le CCFD, Terre Solidaire. Donc j'ai pu devenir membre de cette ONG, petite antenne à Tournon, hein, on fait ça en toute humilité. Des gens formidables. Un service, un souci des autres qui m'a absolument, une fois de plus, bluffée. Je crois que j'ai été bluffée, en fait, de toutes ces rencontres.
Alors que vous donniez quand même beaucoup aux autres aussi toute la journée.
Je sais pas si je donnais beaucoup. En tout cas, je faisais ce que je pouvais. Je faisais ce pourquoi j'avais envie de me lever le matin. Mais c'est vrai qu'effectivement, je me suis rendu compte que des gens donnaient vraiment énormément et que on était vraiment tout petits. Voilà, donc toutes ces belles rencontres qui ont solidifié ma foi, qui m'ont permis d'avancer moi aussi sur ce chemin-là.
Donc vous avez des jeunes quand vous vous occupez des scouts et vous avez des personnes âgées dans votre métier en fait.
Voilà, pour un peu des deux pour équilibrer.
Tout à fait. Vous avez dit que vous aviez été dans des soins palliatifs aussi, que
oui.
Vous avez donc été confronté probablement plus que la plupart d'entre nous, en tout cas en moyenne, à la mort.
Tout à fait, oui.
Puisque vous accompagnez des personnes âgées, vous accompagnez aussi jusqu'au dernier jour.
Tout à fait, tant qu'on peut, oui, tout à fait.
Est-ce que cette foi un peu chevillée au corps peut vous aider dans ces moments-là?
Complètement. Je pense que on n'est jamais blindé. On peut jamais se dire c'est bon, des morts. Enfin, j'en ai déjà vu. On peut pas se dire ça en fait. Une vie qui s'arrête, c'est quelque chose qui peut être douloureux. En tant que soignant, on est toujours dans le curatif. Quand on passe dans le palliatif, je pense que sans ma foi, je le vivrais sans doute comme un échec. On essaie de les accompagner le plus sereinement possible. Ils vont partir dans un endroit où ils seront aimés, mais sans condition, où une deuxième vie commence.
Est-ce que vous avez l'impression que vos collègues qui n'ont peut-être pas cette foi pourraient vivre ça comme un échec ou est-ce que c'est plus difficile pour elles quand elles sont confrontées à ça?
Alors c'est vrai que c'est toujours délicat. À l'hôpital, on parle pas trop de foi en fait. On n'a pas la même sérénité quand on ferme des yeux. J'en suis persuadée. Après, on en parle rarement entre nous.
On vous questionne pas, vous, personne sait trop que vous avez cette foi dans votre métier, dans votre milieu professionnel.
Alors si, des fois on en parle. Alors mes collègues peuvent être des fois un peu surprises. Ah bon Bah oui, c'est possible aussi. Et puis en fait, moi je trouve que ça relève vraiment de l'intime. Voilà, je vais pas le dire spontanément, mais par contre, effectivement, si on se lance sur ce sujet-là, on se rend compte que les gens sont pas du tout fermés à entendre ce qu'on a à leur dire. Puis souvent ils nous disent ah bah oui mais moi j'avais une grand-mère des fois qui m'emmenait à l'église. Oh mais j'aimais bien, c'était sympa. Et alors du coup on rebondit un peu sur ça. En tout cas je pense qu'elles accueillent parce que c'est un métier qui demande énormément de respect en fait dans les croyances puisque c'est un peu l'essence même aussi de notre travail.
Vous avez dit la foi ça relève un petit peu de l'intime et d'ailleurs quand vous vous êtes mariée avec votre mari eh bien lui il n'avait pas la foi.
Non.
Et aujourd'hui ça a changé.
Oui. Tout à fait.
Et c'est alors, pas vous qui l'avez forcé.
Alors pas du tout. Antoine a toujours profondément respecté, voilà, ma pratique, mes croyances, parce que voilà, il est plutôt issu d'une famille, voilà, ils sont pas vraiment croyants, donc, mais ils sont très respectueux quand même de ce que je vivais moi.
Voire l'inverse, c'est ça.
Un petit peu, oui. Voilà, j'ai une belle famille, un peu anticléricale, mais tout à fait gentille. Enfin, il y a pas de, voilà. Tout va bien de ce point de vue-là. Il est resté spectateur pendant plusieurs années et à un moment donné, il a reçu l'appel. Ça a été très très fort, très déroutant pour lui. Pas tout à fait compris effectivement ce qui se passait. Moi, je l'ai vu venir, mais j'ai trop rien dit. Et puis après, quand effectivement, il s'est rendu compte de ce qui arrivait, j'ai pu l'accompagner. Il est venu avec moi à plusieurs reprises lors de messes. Lui aussi, bah, son début de chemin de foi, enfin, était ponctué par des rencontres et par de belles rencontres. Je pense que ça lui apporte beaucoup de joie.
Comment vous faites pour vos trois filles? La foi relève de l'intime. Est-ce que vous leur enseignez quelque chose? Est-ce que vous les avez baptisées?
Deux de mes trois filles sont baptisées puisqu'on a préféré attendre un petit peu un certain âge. Moi, je pense que vers 5-6 ans, alors bon, elles ont quand même une vie de foi au début, bien évidemment. Elles nous accompagnent, on en parle. Je veux vraiment qu'elles reçoivent Dieu, en fait. Et je pense qu'il y a quand même un âge où on l'entend et on le voit plus. Vers 5-6 ans, j'ai senti mes aînés relativement prêtes pour leur proposer le baptême.
Vous leur avez proposé le baptême?
On leur a proposé le baptême. On leur a expliqué effectivement ce que c'était. Pourquoi est-ce que nous, bah, des fois le dimanche, on aimait bien aller à l'église? Pourquoi on aimait bien aller entendre ce qu'ils disaient? Pourquoi des fois on écoutait des chants à la maison? L'Avent, bon, toute cette période effectivement de Noël, de la naissance, de Pâques. Bon, elles savaient déjà. Mais effectivement, voilà, on leur a proposé de vivre en plus d'avoir notre famille à nous, bah, d'arriver dans la grande famille des chrétiens. Et donc les deux aînées ont tout à fait répondu. Et puis ensuite, donc notre petite troisième, pas encore, parce qu'elle n'a pas encore atteint cet âge-là, même si elle aime beaucoup aller voir Jésus quand on passe devant l'église à Tournon. Mais voilà, on n'en est pas encore là. Je la sens pas tout à fait prête. Donc on va attendre un petit peu. Et puis voilà, donc mes aînés après ont demandé les sacrements à leur rythme. Ma deuxième était un petit peu plus avancée que sa sœur aînée à un moment donné parce qu'effectivement, bah, ma fille aînée se posait plus de questions. Elle se prépare à la confirmation et elle y trouve vraiment beaucoup de joie aussi.
Vous êtes venu avec un deuxième chant, les gens qui doutent justement. Ça fait une bonne transition parce qu'on peut douter parfois que ce soit le bon moment pour le baptême, pour la confirmation. Mmh. Une chanson à la base d'Anne Sylvestre, mais vous avez préféré une version de Vincent Delerme.
Oui, parce que j'aime bien la voix de Vincent Delerme. Voilà, donc cette chanson, parce que malgré des petits gros mots, j'en suis un petit peu désolée, mais bon, Anne Sylvestre l'a écrite comme ça, et cette chanson est très belle. Moi, je la prends avec beaucoup d'humanitude. On est vraiment sur quelque chose, voilà, de cet amour inconditionnel. On peut se tromper, on peut être à côté de la plaque. Dieu nous aime malgré tout.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté.
J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons.
J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur.
J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme, les daltoniens de l'âme, ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons.
Chemin de foi, RCF.
Toujours dans notre émission, en compagnie d'Isabelle Bell, qui nous raconte son parcours depuis le début de cette émission. Un parcours parti de Cherbourg, plusieurs déménagements, une fois un petit peu timide, des études d'infirmière après un job d'été où elle a soigné des personnes âgées. Elle s'est rendue compte que c'était une vocation de s'occuper des autres, d'être avec les autres, d'avoir un côté un peu plus social. Dans cette troisième partie, j'aimerais commencer avec une phrase que vous m'avez écrite, c'est « Je ne suis pas une catholique au cordeau ». Pourquoi ?
Oui, alors c'est... je savais pas trop comment le tourner, effectivement. Moi, j'ai besoin d'être dans le mouvement. Je n'arrive pas à me situer dans quelque chose de conformiste, de traditionnel. Je pense que Dieu me pousse, souvent. Souvent pour que je marche, que j'aille à la rencontre, que je m'occupe. Mais pas forcément que je reste assise en contemplation le dimanche matin.
Oui, vous aimez mieux être en mouvement.
Oui.
En toute discrétion, d'ailleurs, pour ajouter, qu'en contemplation.
Oui. Bon, en discrétion, parce que, effectivement, même cet exercice de venir vous rencontrer aujourd'hui, c'est déjà pas chose facile pour moi.
Faut dire que j'ai insisté, hein.
Non, mais en même temps, je me dis qu'après tout, peut-être qu'on était d'autres, sans doute plusieurs aussi à aimer être discret, mais voilà.
Oui.
Mais qu'on avait le droit quand même aussi d'expliquer un petit peu notre chemin de foi. Je pense que Dieu nous appelle en fonction de nos charismes. Certains vont être extrêmement doués pour expliquer l'histoire, pour expliquer la Bible, pour expliquer, pour chanter, pour voilà. Moi, je pense que Il a bien compris que j'avais besoin d'être auprès des gens, de ces gens qu'on voit pas toujours, mais de me mettre continuellement en mouvement. Il a peut-être dû se dire que j'étais un peu hyperactive.
Vous m'avez dit que vous aimiez être au service des invisibles. Et là, vous venez de parler des gens qu'on voit pas toujours. Donc,
oui.
Qui sont ces invisibles?
Les gens qui sont fragiles, des gens de toute fragilité. De toute façon, on est tous amenés à être fragiles à un moment donné de notre vie, que ce soit par la maladie. Mais aussi des fois la précarité sociale, précarité intellectuelle, fragilité dans une intégration. Ça peut être aussi des gens qui vont devoir migrer parce que leur pays n'est plus vivable, parce qu'ils sont en danger, parce que le climat ne s'y prête pas non plus. On a aussi cette sensibilité là et effectivement des gens qu'on ne voit pas, mais des gens qui ont besoin d'aide et à qui on doit tendre la main.
Alors évidemment, on pense aux migrants, effectivement,
oui.
On pense peut-être aux personnes sans domicile fixe,
oui.
Mais on pense aussi peut-être aux personnes handicapées, aux personnes âgées.
Oui.
Est-ce que nos personnes âgées sont des personnes invisibles dans notre pays ?
Alors oui, je pense. Moi, je vois quand même la précarité dans laquelle ils vivent. On ne peut pas dire qu'ils soient visibles. Si on les voyait vraiment, on les laisserait pas vivre comme ça, en fait. Enfin, voilà. Mais c'est valable aussi, pour les gens qui sont dans la rue, pour les étudiants également, parce que c'est pareil, les étudiants sont en grande précarité. Ça peut être aussi pour des gens qui vivent en milieu carcéral. Enfin, voilà, on a tous nos fragilités, on a tous des moments où on est moins solide, pas suffisamment costaud, et on n'a pas forcément envie de se faire voir. Donc, il faut aller les trouver, ces gens-là.
On vous a confié la mission de la diaconie au diocèse de l'Ardèche.
Oui.
Comment c'est arrivé ? C'est-à-dire, vous avez été responsable du groupe scout sans avoir été scout.
Oui. Je me retrouve au diocèse sans pratiquer très activement, sans être au cordeau. Pourquoi moi, je sais pas. Peut-être que voilà, certains pensaient que c'était possible. Ils ont sans doute cru que j'en étais capable. Je les remercie énormément parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est une mission qui m'épanouit vraiment. C'est pas par hasard, parce qu'il n'y a jamais de hasard. Hein. On dit toujours que le hasard, c'est la voie que prend Dieu pour... voilà,
pour dire les choses,
voilà,
oui.
Pour dire les choses, mais effectivement, voilà, donc pas de hasard sans doute, mais une très très belle mission, parce qu'effectivement, ce sont à nouveau des rencontres, de très très belles rencontres, des gens exceptionnels. Alors moi, j'ai simplement un rôle de coordination, puisque je coordonne plusieurs entités, mais qui sont à elles seules parfaitement autonomes. Hein. Voilà, ils font des choses très très belles, et je pense que c'est un plaisir que de pousser au moins une fois par semaine, voire plus quand je peux, les portes du diocèse et de voir mes collègues, de voir leur engagement, d'apprendre d'eux. Ce sont des gens qui ont d'énormes connaissances, beaucoup de sourires, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'échanges. Ça fait grandir aussi. Moi, j'aimerais les suivre et faire ne serait-ce que le quart de ce que ces gens-là font.
Ce service de la diaconie, finalement, vous le mettez aussi un petit peu en valeur tous les jours dans votre métier ?
Oui, alors effectivement, parce que bon, ça recoupe aussi également la pastorale de la santé, pastorale des personnes handicapées. Donc, j'ai l'impression de le vivre aussi. Donc, ma position de soignante peut aussi m'aider à voir l'essentiel, même si voilà, les responsables de pastorale sont tout à fait... vraiment à leur place, vraiment plein de connaissances et plein d'entrain pour faire bouger les choses. Je pense qu'on a énormément de chance en Ardèche d'avoir de telles personnes qui travaillent dans ces services. Mais voilà, c'est vrai qu'effectivement, la diaconie, le service du frère, c'est un peu moi tous les jours quand... voilà, quand je prends ma voiture, mon trousseau de clés, ma mallette, c'est un petit peu aussi quand je descends à Viviers, quand je rencontre des gens, quand je vois les actions, Secours catholique, CCFD, voilà, la diaconie, c'est tout ça, c'est tout ça.
Est-ce que ça vous arrive de parler de foi avec les personnes que vous visitez ?
Alors oui, alors des fois le dimanche, parce que certains sont scotchés à la messe, donc je trouve ça bien, donc on en parle un petit peu, voire beaucoup. Et je pense qu'on parle aussi beaucoup de spiritualité, en fait, parce qu'ils sont peut-être à des moments de leur vie où la fragilité et les événements qui ont marqué leur vie, en fait, les rattrapent un peu, leur comportement, enfin, ce qu'ils ont pu vivre, ça les rattrape un petit peu, donc ils ont besoin des fois d'en parler, soulager un peu ou voilà, d'avoir un regard sur ça.
Isabelle Bell, pour terminer cette émission... Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin ? C'est-à-dire, vous avez, j'imagine, un agenda qui doit être quand même pas mal plein, avec trois filles, un mari, infirmière à domicile.
Moi, j'ai un mari exceptionnel, là, qui gère très bien.
Là, il a fallu qu'on se place entre deux créneaux pour venir vite faire l'émission. Et puis, de temps en temps, vous allez pousser, comme vous avez dit, la porte du diocèse à Viviers pour aller voir les collègues. Et puis, vous coordonnez le service de la diaconie, service du frère. Qu'est-ce qui fait que tous les matins, vous allez dire, allez, j'y retourne, clac, le réveil sonne, je l'éteins, je prends mes clés, ma mallette, comme vous avez dit.
Alors, je pense qu'il y a des moments où, des fois, c'est peut-être un petit peu plus dur, parce qu'on n'est pas toujours très en forme, mais je pense que très rapidement, quand vous vous levez le matin et que vous avez l'impression d'être à votre place, en fait, d'être légitime dans ce que vous faites, c'est ça qui vous fait lever le matin. Et puis, petite chose aussi, je me dis que plus on s'engagera avec Antoine, plus mes enfants s'engageront. Donc, c'est beau aussi, ça.
Il faut montrer l'exemple, transmettre.
C'est ce qu'on se dit tous les jours, effectivement.
Un grand merci en tout cas d'avoir accepté cette émission. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.